Nous sommes le vendredi 24 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Il est 7h00 en temps universel. Bienvenue dans le monde. Aujourd'hui, au micro, Nanit Talani. À la une de l'actualité de ce vendredi 21 juin 2024, l'ONU dénonce les attaques des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Controverse autour d'un permis pétrolier au Congo-Brazzaville. Au Niger, un permis d'uranium retiré à une société française. En Minute Éco, un soutien de 1,2 milliard de dollars pour l'industrie pharmaceutique africaine. Le sport va nous plonger dans l'histoire d'une adolescente guinéenne qui rêve de judo. En magazine, nous irons au Cameroun avec les jeunes qui se mobilisent pour l'inscription sur les listes électorales. Mais en attendant, voici le journal sur VOA Afrique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier les attaques du M23 et d'autres groupes rebelles dans l'est de la RDC. Les détails avec Rosine Munezero.
Les membres du Conseil ont condamné hier dans les termes les plus forts la récente série d'attaques du M23 qui ont fait des victimes civiles et blessé un soldat de la paix. Ils s'inquiètent également de l'intensification des attaques systématiques des rebelles ADF, groupe affilié au groupe État islamique, et de l'offensive en cours du M23 vers Kanyabayonga dans le nord Kivu qui a déplacé 350 000 personnes et provoqué la suspension des opérations de distribution alimentaire. Le Conseil appelle toutes les parties à intensifier le dialogue vers une désescalade et réitère sa condamnation d'un soutien militaire étranger apporté au M23 et à d'autres groupes armés et réclamant le retrait immédiat de toute partie étrangère. Les États-Unis et la France accusent le Rwanda de soutenir le M23, mais aucun pays n'est cité dans cette déclaration qui fait référence des rapports d'experts mandatés par l'ONU qui assurent avoir des preuves d'intervention directe des forces armées rwandaises aux côtés du M23.
Earth Insight et Greenpeace Africa, deux associations de défense de l'environnement, dénoncent un permis d'exploitation pétrolière accordé en début d'année par Brazzaville à une compagnie chinoise. Le point avec Eddie Isango.
Earth Insight, ONG basée aux États-Unis, ainsi que Greenpeace Africa, se demandent s'il n'est pas encore temps d'arrêter les forages pétroliers dans Konkwati Douli, l'un des parcs les plus riches en biodiversité du bassin du Congo. Le parc, à la frontière avec le Gabon, abrite plus de 5000 km² d'écosystèmes côtiers, maritimes et forestiers, rappelle l'ONG. Pour les deux organisations, les permis d'exploitation pétrolière accordés en début d'année par Brazzaville à la société China Oil Natural Gas Overseas Holding United menace l'écosystème du parc national congolais et doit être annulé. Ce parc abrite des espèces sauvages en voie de disparition et des milliers de villageois dont les moyens de subsistance dépendent de la forêt. Greenpeace a déjà protesté contre la décision du gouvernement congolais prise en janvier. Une dizaine d'organisations congolaises de la société civile ont à leur tour demandé aux autorités début juin de retirer ce permis qui, selon elle, va à l'encontre de nombreux engagements pris par la République du Congo au niveau international et de la loi sur la faune et les aires protégées.
Le président burkinabé Ibrahim Traoré a démenti hier les informations faisant état d'une mutinerie au sein de l'armée. Il a affirmé qu'une roquette a été lancée par erreur dans la cour de la télévision nationale par ceux qui étaient là pour protéger le personnel de la télévision, ajoutant que personne n'était mort et qu'il y avait eu des blessés. Au Niger, de fortes précipitations et graves inondations ont fait 21 morts et près de 6 000 sinistrés depuis fin mai. À la date du 20 juin, nous avons 5 926 personnes sinistrées, 21 décès dont 8 par noyade et 13 par effondrement d'habitation, a annoncé à la télévision publique la Direction générale de la protection civile du Niger. 26 blessés ont été enregistrés et près de 4 000 têtes de bétail décimées par les flots, selon la même source. Aussi, le Niger a retiré le permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium à l'entreprise française Orano, mettant à exécution un ultimatum adressé à la société dans un contexte de tensions vives entre Paris et Niamey. Les précisions de John Lyndon.
Orano prend acte de la décision des autorités du Niger de retirer à sa filiale Imurarem son permis d'exploiter le gisement, et ce, malgré la reprise des activités sur site, a écrit le groupe dans un communiqué. Les autorités nigériennes n'avaient pas encore répondu à ce communiqué hier soir. Imurarem, dans le nord du Niger, est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Son exploitation devait débuter en 2015, mais la chute des prix de l'uranium avait gelé les opérations. Orano, ex-Areva, spécialiste du nucléaire, exploite l'uranium dans le nord du Niger depuis plus d'un demi-siècle.
De jeunes Kenyans ont manifesté hier à travers le pays contre le projet de budget du gouvernement actuellement débattu au Parlement qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Deux jours après une première manifestation de quelques centaines de personnes dans la capitale Nairobi, la mobilisation de la génération Z kényane s'est étendue à travers le pays dans le cadre d'un mouvement inédit lancé à peine une semaine plus tôt sur les réseaux sociaux hors de tout cadre politique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'industrie africaine de fabrication de vaccins devrait fournir plus de 60% des doses de vaccins nécessaires sur le continent d'ici 2040, contre environ 2% aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron hier à l'occasion du forum sur la vaccination en Afrique. Les détails de Claire Morin-Gibourg.
Plus d'un milliard de dollars ont été annoncés hier à Paris lors d'un forum mondial pour accélérer la production de vaccins en Afrique. Ce fonds sera une brique essentielle pour bâtir justement ce véritable marché africain du vaccin, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Ce dispositif pourra devenir un catalyseur pour promouvoir l'industrie pharmaceutique en Afrique et favoriser la collaboration entre les États membres, a estimé Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Alors que le continent continue d'exporter 99% de ses vaccins à des coûts exorbitants. L'inégalité de l'accès aux vaccins a été mise en lumière par la pandémie de Covid il y a 4 ans et une production localisée partout dans le monde est perçue comme une réponse aux prochaines pandémies.
L'armée israélienne et le Hezbollah ont échangé de nouveaux tirs transfrontaliers la nuit dernière, après une escalade de la rhétorique entre les deux protagonistes. Le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques, dont le tir des dizaines de roquettes sur une position militaire dans le nord d'Israël, après la mort d'un de ses combattants dans une frappe israélienne dans le sud du Liban. L'armée israélienne a confirmé avoir éliminé un commandant du mouvement et frappé un site de lancement de missiles sol-air du Hezbollah, groupe armé et financé par l'Iran et allié au Hamas. Dans la bande de Gaza, tôt ce vendredi, il y a eu des bombardements israéliens sur plusieurs secteurs du territoire palestinien. La relation entre la Maison-Blanche et Benjamin Netanyahou connaît un nouvel épisode de crispation après que le premier ministre israélien a critiqué le rythme des livraisons d'aide alimentaire américaine. Dans une vidéo publiée mardi, Benjamin Netanyahou accuse les États-Unis, premier soutien militaire d'Israël, de retenir des livraisons d'armement. Ces commentaires sont profondément décevants et offensants, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Aucun autre pays ne fait plus pour aider à Israël à se défendre contre la menace du Hamas et contre les menaces régionales, a encore dit John Kirby. Benjamin Netanyahou est attendu à Washington le 24 juillet pour prononcer un discours devant le Congrès. La Russie a revendiqué ce vendredi avoir neutralisé dans la nuit 114 drones ukrainiens qui ont notamment visé la région de Krasnodar dans le sud du pays où une personne a été tuée d'après les autorités locales. Les systèmes de défense antiaérienne russes ont intercepté et détruit 70 drones en Crimée, 43 drones dans la région de Krasnodar et un drone dans celle de Volgograd, selon un communiqué du ministère russe de la Défense. L'armée russe a également détruit 6 drones navals ukrainiens dans la partie nord-ouest de la mer Noire, assure la même source. Au Mexique, le bilan de la canicule qui sévit depuis mars sur une bonne partie du territoire du pays s'élève à 115 morts avec 30 nouveaux cas entre le 13 et le 18 juin, a annoncé le ministère de la Santé. Du fait des hautes températures et du manque de pluie, le niveau des eaux de plusieurs barrages reste bas et des lacs sont en train de s'assécher. Dans le sud du pays, des températures supérieures à 40 degrés ont été enregistrées. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, concentrons-nous sur les dernières nouvelles financières et économiques avec John Lindon.
Au Cameroun, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures a réalisé un bénéfice de 5 milliards de francs CFA après une perte de 13 milliards en 2022. Selon le site ecomatin.net, l'entreprise retrouve ainsi le chemin de la performance dans un contexte national de forte demande des produits pétroliers et une hausse soutenue de la consommation de gaz domestique de 8% en 2023. Le Sénégal devrait enregistrer une croissance économique de 10,1% en 2025 contre 7,1% estimé en 2024. C'est ce qu'a annoncé le Fonds monétaire international à l'issue d'une mission de 2 semaines à Dakar, souligne l'agence Ecofin. Le FMI a précisé que les perspectives économiques du Sénégal se sont nettement améliorées après le règlement pacifique de l'élection présidentielle de mars dernier. La Banque africaine d'import-export et les centres africains de prévention et de contrôle des maladies ont annoncé jeudi la signature d'un accord de coopération. Cet accord a été signé à marge du Forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinale qui se tient à Paris.
Intéressons-nous à présent aux nouvelles sportives. Nous accueillons Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Suite ce vendredi des matchs de la deuxième journée de l'Euro 2024.
Oui, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez, a participé hier à l'entraînement avec un masque avant deux en quête de relance après des défaites lors de leur première sortie. Dans le groupe E, l'Ukraine et la Slovaquie s'affrontent.
Des nouvelles du marché des transferts. Pour commencer, l'Ivoirien Lasso Koulibaly est la première recrue d'Auxerre.
L'AJ Auxerre, promu en Ligue 1 française, a annoncé le recrutement du milieu offensif international espoir ivoirien, Lasso Koulibaly, 21 ans, qui évoluait au club danois du FC Nordjylland depuis 2021, s'est engagé pour 4 ans jusqu'en 2028. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais sa valeur marchande serait de 1,5 million d'euros, selon le site internet de référence en la matière, transfermarkt.fr. La saison dernière, il avait été prêté au Randers FC, en première division danoise où il a disputé 31 matchs, inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives.
Allons à présent, Yakuba, en Guinée pour parler du rêve de judo d'une adolescente.
Ma Kolma Bangoura, c'est son nom, défie tout pronostic et poursuit ses rêves de judo. La persévérance de l'athlète résume la résilience des jeunes talents guinéens surmontant des obstacles pour poursuivre leurs rêves sportifs. Davantage avec Blanche Sanouf.
À 16 ans, Ma Kolma Bangoura jongle pour subvenir aux besoins de sa famille tout en poursuivant son rêve de participer comme judoka aux Jeux olympiques.
Le judo, c'est dur, mais c'est une question de cœur. Quand j'ai commencé le judo, beaucoup de gens m'ont dit de ne pas le faire parce que c'est un sport d'hommes et que je me blesserais. Ils ont dit beaucoup de choses, mais j'avais mon objectif, car c'est une activité stimulante et enrichissante.
Le dévouement de Bangoura pour le sport a transformé sa vie. Entre la vente de marchandises dans les rues de Conakry et le transport pour se rendre aux séances d'entraînement, elle maintient un engagement inébranlable envers le judo.
C'est grâce à ce métier que je nourris ma famille. Le judo a de nombreux avantages pour moi, car depuis que j'ai commencé à pratiquer le judo, beaucoup de mes comportements ont changé.
Avec le soutien indéfectible de sa mère, Bangoura a défié les pressions sociétales, suggérant que le judo ne convient pas aux filles.
Si j'avais écouté ce que les gens disaient et n'avais pas permis à Bangoura de pratiquer le judo, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Mais je suis restée ferme sur ma décision car c'est ma responsabilité de guider ma fille.
Les ressources limitées de la famille n'ont pas découragé ses ambitions et même si elle ne s'est pas qualifiée pour les Jeux olympiques cette année, Ma Kolma Bangoura n'entend pas abandonner son entraînement.
Merci Blanche.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nanit Talani toujours en votre compagnie avant de conclure notre journal, plongeant dans notre partie magazine. Au Cameroun, les citoyens en âge de voter s'inscrivent de plus en plus sur les listes électorales. Parmi eux, de nombreux jeunes qui appellent à un changement au terme des 3 scrutins, dont l'élection présidentielle prévue l'an prochain. Des initiatives pour galvaniser les jeunes camerounais à accomplir leurs devoirs civiques se multiplient. Un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Population de Yaoundé 6, venez vous inscrire sur les listes électorales.
Le message est diffusé en boucle à partir d'un haut-parleur. Crescence et Sidem se trouvent au lieu d'Imokolo, dans le 6e arrondissement à Yaoundé.
Nous sommes juste un groupe de personnes que nous sommes décidés à sortir pour venir galvaniser les jeunes à venir s'inscrire sur les...
Une équipe mobile de l'Élection Cameroun a été déployée sur le terrain. Crescence et Sidem, membres du mouvement Jeunesse et Citoyenneté Active.
Nombreux ne prennent pas ça vraiment encore en compte. La raison pour laquelle nous sommes dehors, on se bat, on dit venez vous inscrire. Parce que l'année 2025, c'est une année d'élection présidentielle, c'est une année d'élection législative et communale. Les Camerounais en ont marre de la souffrance actuelle.
Depuis plus d'un an, leur mouvement mène des campagnes de proximité pour inciter à s'inscrire sur les listes électorales. Une initiative du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, dont le leader est Maurice Kamto, l'opposant arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle de 2018. Cédric Yonta, membre de Jeunesse et Citoyenneté Active.
Cette action a été prise par notre parti. Dans toutes les communes, tous les jours, nous sortons pour faire inscrire le maximum de Camerounais. Par moments, nous sortons comme ça, là. On ne part pas chercher les gens. Quand on fait parler seulement au micro, la foule, comme vous voyez là. Donc les Camerounais ont vraiment besoin du changement.
Joseph Outou, la vingtaine révolue, vient de se faire enrôler pour la première fois sur les listes électorales et ne cache pas son enthousiasme.
S'il faut le changement, il faudra commencer par nous-mêmes. Si on n'a pas de carte électorale, on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi t'en vois compte?
C'est grâce à ces campagnes de proximité qu'Armand Ngong, technicien de génie civil âgé de 24 ans, a pu avoir sa carte d'électeur.
Ma carte d'électeur Elecam, j'ai fait ça, ça fait pratiquement 3-4 mois. Je suis allé dans certains bureaux Elecam et c'était toujours fermé. Puis il y a un monsieur sur Facebook qui laisse savoir les différents points d'inscription. Là, un jour, il a laissé savoir qu'à Tchinga, il y avait inscription. Et puis un matin, je me suis levé pour aller m'inscrire. Ça a été rapide quand même.
Le gouvernement est sur ses gardes. Pour la Tanganji, ministre de l'administration territoriale, a mis en garde les hommes politiques contre, je cite, « toute tentative de manipulation pernicieuse de l'opinion publique tendant à faire de l'inscription sur les listes électorales une surenchère politique ou un facteur de perturbation de la tranquillité des citoyens ». Fin de citation. D'après Elections Cameroun et l'ECAM, plus de 200 000 nouvelles inscriptions ont été enregistrées au cours des 4 premiers mois de l'année. Éric Essoussé, directeur général des élections.
Si on invite les gens à s'inscrire, il n'y a pas de problème. Les partis politiques doivent apporter les militants et les sympathisants à s'inscrire, mais qu'on le fasse selon les règles, n'est-ce pas, de la loi. Et il y a toujours un programme hebdomadaire pour la descente de nos équipes sur le terrain. D'accord, parti avec les partis politiques et la société civile.
Le processus de révision des listes électorales en cours s'achève le 31 août prochain. Pour la première fois, le Cameroun a dépassé la barre de 7,5 millions d'inscrits sur les listes électorales d'après le Conseil électoral d'Élection Cameroun et les CAM tenu en mars dernier. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, le gouvernement et le HCR commémorent la Journée mondiale des réfugiés. Le Tchad accueille plus d'1,2 million réfugiés, y compris des milliers de demandeurs d'asile et des personnes déplacées. André Code Madingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Les multiples guerres au Soudan ont contraint plus de 600 000 réfugiés à fuir leur pays pour venir s'installer dans l'est du Tchad. Ces réfugiés, toutes catégories confondues, se disent bien protégés, même si l'aide humanitaire se raréfie.
Moi, particulièrement, je suis en sécurité Depuis que je suis là, ça fait déjà 10 ans. J'aime le Tchad parce que c'est un pays solidaire.
Cependant, les jeunes réfugiés qui ont fini leur cursus scolaire au Tchad plaident pour que la loi d'asile soit promulguée pour faciliter leur réinsertion sociale.
Nous les autres qu'on a eu la chance d'aller à l'université, fréquenter ici, cela nous a permis d'étiger une relation, d'être intégrés dans la société. Maintenant, le plus grand problème, c'est sur la question d'emploi. Nous aimerons, ce qu'à travers cette journée mondiale des réfugiés, célébrer un peu partout dans le monde que la question de l'emploi des réfugiés soit prise en compte par le gouvernement et que la loi d'asile soit promulguée comme il le faut pour que les réfugiés qui vivent sur le sol tchadien puissent travailler comme ils ont étudié ici.
Une autre femme réfugiée éprouve les mêmes difficultés, même si elle était mariée à un tchadien.
Tu viens demander le travail, on dit que la place est réservée aux tchadiens, alors que moi j'ai même l'acte de mariage tchadien. C'est malheureux. Et quand il y a un problème, on dit que tu n'es pas chez toi. Mais sinon, nous remercions vraiment la SEDA, le HCR et ceux qui sont de près ou de loin qui nous supportent.
La situation des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad est peu reluisante, selon la représentante du HCR au Tchad, Laura Locastro.
Ce pays héberge effectivement 1 200 000 réfugiés dans 4 provinces. Donc le HCR, avec le gouvernement, nous avons essayé d'éloigner les réfugiés des frontières. Mais malheureusement, les ressources ne sont pas suffisantes. L'année passée, ça a couvert seulement 40% des besoins des acteurs humanitaires. Et cette année, on n'est même pas à 10% encore. Donc ça, c'est le problème que nous avons, c'est que la population réfugiée grandit, que les populations tchadiennes demandent aussi un peu d'assistance et que les ressources ne sont pas là. Donc on n'arrive pas à donner suffisamment d'eau, suffisamment de nourriture, suffisamment d'abri. Et nous avons une population très grande, comme vous savez, d'environ 190 000 personnes qui se trouvent encore à Adré, au point de frontière, en attendant d'être relocalisées dans des nouveaux sites aménagés.
Tout en assurant la sécurité physique des réfugiés et celle des humanitaires, le Tchad est favorable à toutes les solutions durables pour des milliers de déplacés, estime Madame le ministre en charge de l'action sociale et des affaires humanitaires, Fatima Boukhar-Kosseï.
Le Tchad demeure toujours favorable aux solutions pour le retour volontaire et librement consenti des réfugiés dans leur pays d'origine et c'est dans les conditions de sécurité et de dignité possible.
Le gouvernement et ses partenaires humanitaires craignent qu'une épidémie se développe dans les 4 provinces du Tchad où il y a concentration des populations réfugiées. André Kodomadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les réfugiés hébergés par le Rwanda demandent à la communauté internationale de plaider pour leur retour dans leur pays d'origine. De Kigali, voici le récit de Jean Damascène Manishimui.
Ils sont plus de 135 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda. Justin Kagyemé, un réfugié congolais, vient de passer presque 3 décennies dans un camp dans l'ouest du Rwanda.
Nous venons de passer 28 ans dans un camp de réfugiés, dans une vie difficile. C'est vraiment misérable. Nous en avons assez. Nous ne voulons plus continuer à vivre comme réfugiés. Nous voulons rentrer et souhaitons voir notre mère patrie dont nos parents nous parlent souvent.
La majorité des réfugiés viennent du Burundi et de la République démocratique du Congo, deux pays voisins dont les relations avec le Rwanda sont tendues depuis quelques années. Albert Murasira est ministre rwandais en charge des réfugiés.
La RDC et le Burundi, ils ne sont pas prêts à accueillir les réfugiés, mais on est toujours prêt à assurer leur sécurité tant qu'ils sont au Rwanda.
Depuis novembre 2023, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a sensiblement diminué son aide aux réfugiés. Pour pallier à ce problème, Kigali mise sur l'entrepreneuriat des réfugiés. Le ministre rwandais chargé des réfugiés explique.
Les aides continuent à diminuer, alors pour qu'ils soient indépendants, on les encourage à essayer de trouver du travail et on les éduque, on les donne des formations pour gérer des petites coopératives et de travailler ensemble avec les Rwandais. Il n'y a pas de différence.
Le Rwanda accueille aussi depuis 2019 des migrants venus de Libye. La plupart ont été traumatisés par leur expérience en Libye. Le témoignage de Nyarang Chiwero, originaire du Soudan du Sud.
Du Soudan du Sud à la Libye, nous avons eu beaucoup de difficultés à cause de la guerre et du tribalisme. Tant de problèmes dans cet endroit.
Le commissariat pour les réfugiés a récemment accusé le Rwanda de maltraiter les réfugiés, ce que le Rwanda a rejeté catégoriquement. Malgré cette brouille, l'OHCR affirme que les deux parties vont continuer de collaborer pour le bien des réfugiés. Eni Dotieng est représentante adjointe du HCR au Rwanda.
Les solutions que nous proposons à ce groupe particulier sont la réinstallation dans un pays tiers, le rapatriement volontaire vers leur pays d'origine, et ceux qui souhaitent rester ici sont aussi bien informés. Et nous continuerons à collaborer avec le gouvernement pour cette fin.
Actuellement, le Rwanda abrite plus de 80 000 réfugiés congolais et quelques 50 000 Burundais. À cela s'ajoutent plus de 600 migrants venus de Libye en attente de trouver d'autres pays d'accueil. Jean Tamasene Manichimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, s'est rendu au Soudan et au Sud-Soudan à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés pour mettre en lumière la situation de millions de personnes déplacées par la guerre. Margaret Béchère de la VOA s'est entretenue avec Filippo Grandi. Le récit est de Dili Diko.
La guerre au Soudan a déclenché l'une des plus grandes crises de réfugiés sur la planète, selon les Nations Unies. Elle a éclaté en avril 2023 et a entraîné le déplacement interne de près de 10 millions de personnes et poussé 2 millions d'autres à chercher refuge dans les pays voisins. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a rencontré cette semaine des personnes déplacées à Kosti, dans le sud du Soudan.
They're fleeing a horrible violence, very severe violations of human rights.
Ils fuient d'horribles violences, des violations très graves des droits de l'homme. Mais de plus en plus, ils fuient aussi les privations et en particulier l'insécurité alimentaire et dans certains cas, la faim. Il s'agit donc d'une multiplication des facteurs qui sont toujours générés par cette guerre insensée qui ne semble pas vouloir s'arrêter.
Au Sud-Soudan, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'efforce de leur venir en aide. Mais l'aide humanitaire n'est qu'une solution à court terme. C'est la paix qui est nécessaire, selon Filippo Grandi. À nouveau, Filippo Grandi.
Mon appel s'adresse à tous ceux qui ont une influence sur les parties au conflit. Poussez-les non pas vers le champ des batailles, mais vers la table des négociations.
Ailleurs, en Afrique, les effets de la crise climatique entraînent des déplacements, forçant les gens à se déplacer, surtout lorsqu'ils sont associés à des conflits. Écoutons Filippo Grandi.
Et là, ce qui se passe, c'est que le climat devient une cause des conflits. Il prive des communautés très pauvres vivant ensemble des ressources de base, l'eau par exemple. La communauté commence à se battre, ce qui entraîne des déplacements des populations.
Au niveau mondial, le nombre de personnes déplacées, de réfugiés et de demandeurs d'asile a augmenté au cours des 12 dernières années pour atteindre 120 millions. L'Ukraine, la Syrie et l'Afghanistan représentent un peu plus de la moitié des personnes déplacées de force. Filippo Grandi.
Cette progression tragique se poursuivra si certains de ces conflits ne sont pas résolus et si les conditions nécessaires au retour des populations qui restent la meilleure solution ne sont pas créées. C'est là le grand défi.
Monsieur Grandi prévient qu'il sera difficile pour un monde de plus en plus divisé de relever les défis mondiaux croissants.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est ainsi que se termine cette session du Monde aujourd'hui qui vous a été présentée par Nanit Talani à la mise en onde, firmée Max Koyawida. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Restez avec nous pour des reportages et des analyses approfondies tout au long de la journée. Pour plus de détails et de nouvelles en continu, visitez notre site web voafrique.com et nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X. Passez une excellente journée et restez informés avec VOA Afrique.